À quel âge avez-vous été sensibilisé au poète, à la poésie ?
Lydie Dattas.
J'ai commencé à écrire mes premiers poèmes à 13 ans, mais je pense qu'on est comme ça. Évidemment, il y a un déclic à un moment donné, on lit un grand texte, mais profondément, peut-être même qu'on est poète.
Est-ce qu'il est vrai que Rimbaud vous avait roulé un patin métaphysique ?
Ça peut pas faire de mal.
Tout à fait vrai. J'ai été en contact avec l'œuvre de Rimbaud quand j'avais 13 ans et ça m'a frappée comme une parole vraie au milieu de... J'étais une très mauvaise élève. Je ne comprenais absolument rien à ce qu'on voulait dans une classe. Et donc, quand j'ai lu Rimbaud, j'ai entendu quelqu'un qui me parlait vraiment.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Alors, comment va notre grande blessée ?
Cette nuit encore, j'ai été réveillée par mes larmes.
C'est une blessure terrible de se découvrir plus grand que ce qu'on aimait.
Je pleurais tant que le bruit de mes larmes m'a effrayée. J'ai cru qu'il pleuvait dans la chambre.
Nous avons tous été meurtris par sa faute, mais toi, tu as été foudroyée.
C'est comme si l'impossible m'était arrivé. La nuit en plein jour, la neige en été. Comme si le Christ m'avait trahi. Comme si la vérité m'avait menti.
L'âme est tellement imprévisible. On devrait trembler tous les jours.
Je ne peux pas le croire. Il était le seul être qui ne pouvait pas me mentir. Le seul en qui j'avais une foi parfaite. Son cœur était pour moi un endroit aussi sûr qu'un petit banc de pierre dans le soleil de mai.
Tu as reçu du sang et de la moelle, et puis cela t'a été pris.
Il m'a abandonné au péril de la vie. Je l'aurais sorti d'une maison en flammes.
Si un papillon se posait sur ton cœur, tu hurlerais.
Il y a en moi quelqu'un qui est révolté et qui voudrait mourir.
Comment peux-tu vouloir mourir, toi qui possèdes la science de Dieu ?
Il n'y a plus de Dieu, puisque celui qui en était pour moi le visage m'a trahi.
Une trahison amoureuse ne t'aurait pas blessé autant ?
Il m'était plus cher qu'un frère, plus cher qu'un amant. Il était le miroir de Dieu. Il s'est brisé, Dieu est en mille morceaux.
Il y a dans ta douleur quelque chose qui la dépasse et qui fait que je t'admire jusque dans ta démesure.
Sans toi, peut-être deviendrais-je folle, car jamais je ne consentirai à raconter ma vie la plus intime à un inconnu. J'aimerais encore mieux mourir que confier mon âme à un étranger.
La souffrance est redoutable, mais qu'elle soit une énigme doit l'élargir jusqu'au vertige.
Tous ces gens qui ne pensent qu'à jouir et à profiter de la vie, qui parlent fort pour se faire remarquer et qui n'admirent que ce qui brille. Comment ne pas être anéanti quand celui qui les combattait à mes côtés m'a subitement lâché pour passer dans le camp ennemi ? Il m'a laissé au bord d'un abîme.
Ce cri de désespoir et de révolte est celui d'une femme au destin exceptionnel. Enfant, elle est touchée par le miracle de la bonté. Adolescente, elle publie son premier recueil de poèmes. Jeune femme, elle tombe amoureuse du monde du cirque, puis rencontre par hasard celui avec qui elle va partager son amour des mots, l'écrivain Jean Genet. Vous aurez reconnu Lydie Dattas, l'auteur de cette magnifique biographie « La chaste vie de Jean Genet » que je vous ai lue la semaine dernière. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Lydie Dattas en personne. Pour lire à mes côtés des extraits de son œuvre si singulière, comme éclairée de l'intérieur, dans le clair-obscur de l'âme et de la passion. Ensemble, ouvrons vos livres au titre fascinant « La nuit spirituelle »,« Les amants lumineux » dont nous avons lu un extrait en introduction, « Le livre des anges »,« La foudre », mais aussi bien sûr votre dernier ouvrage « La blonde », un essai passionnant sur la peinture de Pierre Soulages, publié cet hiver chez Gallimard. Bonsoir Lydie Dattas et merci infiniment de votre présence ce
soir. Bonsoir Guillaume.
Commençons par ce magnifique texte donc autobiographique qui vous a valu votre surnom, La Foudroyée. Voici les premières pages de La Foudre, publiées en 2011 au Mercure de France. La foudre, c'est celle de la rage créatrice de votre grand-père, violoniste, mais c'est aussi le feu sacré de votre mère, actrice. C'est surtout ce coup de foudre que vous éprouvez, étudiante pour l'univers du cirque, que vous découvrez dans toute la violence de sa beauté païenne. Sur la façade aux canelures roses du cirque Rimbaud, une frise faisait galoper ses chevaux. Dans la nuit hivernale, une foudre d'ampoules jaunes mouillait sa masse sombre. La directrice de cette université était la vie. La matière enseignée, une joie ardente comme une théologie animale. Revenu en France pour faire de la philosophie, je lâchais tout devant cette yourte de pierre. Las de la mort moderne, je sus que je trouverais là une pensée de la viande rouge. La grâce m'avait mené au seuil de ce royaume. Les malédictions de mon grand-père me jetèrent à l'intérieur. Ce n'était pas un spectacle que je venais voir, mais les derniers pharaons. Poussant la porte ruisselante des miroirs, j'entrais dans le palais des illettrés. Rivés au mur dans un cadre vieil or, les sombres têtes de penseurs cravatés des quatre frères Rimbaud toisaient la clientèle crédule. La dompteuse milliardaire éclatait de sang comme une publicité pour la vie. Derrière sa caisse en acajou, une vieille manouche au regard de loucheuse faisait craquer les billets entre ses mains crépitantes de diamants. Les badauds piétinaient dans la boue bleue du rêve. Plus prestigieuse qu'un absolu de parfumeur, l'âcre odeur d'urine et de citronnelle me déniaisait. Des rugissements d'hommes illuminaient le cœur des filles. Dans les coulisses, les gitans paradaient avec la désinvolture de dieux incultes. La sensualité auréolant leurs têtes brillantinées humiliait la mort. En me tendant mon billet, la bohémienne aux yeux de jungle prophétisa « C'est vous qui épouserez mon fils. » Son sort jeté, elle m'oublia, me laissant avancer dans la file des imbéciles éblouis qui progressaient vers la salle, leurs yeux fracassés par la proximité du paradis. Comme à l'entrée d'une boucherie chevaline, une tête de cheval ailée éclaboussait d'or frais chaque vomitoire. La pourpre se ruait dans les coulisses comme le sang dans le cœur. Dans le couloir circulaire enflammé de miroirs dorés, la pression artérielle était à son maximum. La ronde inquiétante des tigres dotait le cirque d'une ceinture de feu orangée. L'écurie aux boxes fracassées de paille jaune, le bar inondé par le Niagara des lustres, les loges laquées de rouge avec, gisant sur une chaise, la dépouille pailletée d'un costume encore fumant, tout gueulait la volupté. Je subissais le sort de l'ouvrier métallurgique tombé dans une cuve en fusion. Pour connaître l'exil spirituel, certains font le voyage aux Indes. J'allais au cirque Rimbaud. Une ouvreuse au col douteux me plaça dans une loge de bois rouge. À peine installée dans ce cadre antique, 3000 ans de civilisation s'évanouirent. La pensée qui me chaperonnait depuis toujours défit sa chevelure et s'assit à mon côté sur un trône de crottin doré. Les croupes neigeuses des chevaux qui valsaient en déféquant et les murmures extasiés des enfants m'émurent de vérité vivante. J'avais agonisé des siècles au fond d'un miroir savant. La naïveté du spectacle me vengeait des carcérales années d'études. La panthère noire promenait sa luxueuse fourrure de chez Dieu. Le crottin sortait plus royalement des fesses du cheval que les phrases du cerveau d'un lettré. Concile d'ours blanc, messe de tigre jaune, communions aériennes, cette poudrière de poésie attendait son étincelle. Levant la tête vers la coupole, je contemplais l'immense vélum au quartier multicolore, ému de souffle chaud. J'étais à l'intérieur d'une illumination. Poursuivons notre lecture de La Foudre et découvrons à présent le portrait de celui qui allait devenir votre époux, Alexandre Rimbaud, de son vrai nom, Alexandre Romanès.
Alexandre entra dans ma vie comme une boule de feu par la fenêtre d'un couvent. Il portait une veste framboise, un nœud papillon noir et des bretelles brodées d'oiseaux. Je marchais rue Crussol quand sa beauté m'empêcha de passer. La nuit tombait, mais nos sourires étaient si jeunes que nous nous reconnûmes comme si nous avions couché ensemble au paradis. Chacun flairant en l'autre la part divine qui lui manquait, nous détonâmes comme la poudre. Dans l'odeur d'ammoniac du couloir de la ménagerie, le gitan me roula un baiser de tigre royal. Sa livrée rouge avait la divine puanteur des bêtes. À sa ceinture battait le trousseau de clés ogresque du cirque. Au second rendez-vous, il ôta de sa main pensive aux ongles rongés le diamant multicolore qu'il portait et me le donna. Au bar de l'impératrice, je lui dédicacai le livre que je venais de publier. Ses mains d'ambre rouge me remercièrent en le prenant. Les lèvres suppliantes de la perle du Bengale balbutiaient une passion de sucre rose. Près du haradam de l'écurie, je lui dis qu'il menait une vie de prince. D'une bouche sculptée par les baisers, il bredouilla « Tu te trompes ». Ses yeux étaient de vrais penseurs. Vendu par sa mère contre un manteau de vison blanc, travaillant comme un homme depuis l'âge de 7 ans, ce fils de roi avait souffert. Ne pouvant digérer sa famille d'archétypes, il rêvait d'une infusion d'ange. Je disparus plusieurs jours. Ma mère avait fait de moi une infirmière démente, les coups de ciseaux de son angoisse taillant à mon âme une jupe richement déchiquetée. Mon absence triompha des milliers de belles femmes qui l'aveuglaient chaque soir. Quand je revins dans sa loge où une touche d'habit rouge éteignait une odeur de stupre, le dompteur versa une larme sur mon épaule. Quand nous nous retrouvâmes dans la rue, il faisait nuit et la lune arrosait nos chevelures de jais. « Veux-tu m'épouser ?» Promis à la fille d'un dompteur Sinto, il trahissait son clan. Nul ne pouvait entrer dans cet univers, il fallait y être né. Plongeant ma main dans la chaude et léonine crinière de Dieu, j'oubliais enfin de penser. Disparaître 3 jours avec une fille valant mariage, quand nous revînmes sous le huis-mât de sa famille, les brins angelots de sa tribu jaillirent du fond de l'air. Quand, soulevant le lourd entourage frangé de pluie d'une main de fonte, Alexandre me fit entrer sous la tente abrahamique, j'éprouvai la gloire d'une ressuscitée. Sous la toile, dont la ralingre cicatrisait de rouge les coutures, le cœur enfoncé par le poing des fanfares, j'embrassais 100 gitans par jour, un sang de fraise rougissant mes joues blanches. Comme les rois du grand siècle, tous m'appelaient ma cousine. Ma belle-mère me fit choisir chez son bijoutier un de ces cailloux aveuglants dont la famille était friande. Doté d'un arbre généalogique aux aristocratiques noms d'illettrés, ma folie ne me tourmentait plus. Comblée d'être là.
Alexandre Romanès.
Nous sommes des nomades et tout le monde a l'air de l'oublier. Les sédentaires n'ont jamais accepté le nomadisme. Je me demande si on ne veut pas nous faire payer notre liberté. Parce que dans le nomadisme, il y a des choses qui sont très belles et que les gens le savent ou le sentent. Dans le nomadisme, on ne peut pas accumuler. Même si on voulait, on ne pourrait pas. La liberté n'existe pas, mais nous, on en a quand même un peu plus que les autres.
Cigare, mon âme vagabonde, mon âme cigare, elle veut courir le monde avec nous, cigare, passer de village en village, n'avoir qu'un seul toit et nuage, un seul pays et c'est la terre. Cigare, mon âme cigare, mon âme vagabonde, mon âme cigare, elle veut chanter le monde avec vous, cigare, dormir par la belle étoile, n'avoir ni temple ni cathédrale, et voir de l'aube le rouge et l'or. Voir le ciel encore et encore.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
La prophétie de la vieille tzigane s'est réalisée. Vous avez épousé son fils Alexandre et habité un petit logement à Paris lorsqu'un voisin inattendu s'invite chez vous. Après la foudre, revenons à votre précédent livre, La chaste vie de Jean Genet. Vous y relatez votre rencontre avec l'écrivain comme un souvenir heureux, plein de complicité et de rire. Voici quelques instantanés de votre relation entre Jean Genet et celle que vous dénommez pudiquement Rosalie. Vous partagez une passion commune pour les roses, ainsi qu'une certaine prédilection pour les prophéties et autres petits miracles de la vie. Assis dans son petit fauteuil rouge, Genet méditait. Entre ses doigts, une cigarette presque entièrement consumée retenait sa cendre. Rosalie, derrière le reliquaire vitré de cristal des yeux du poète, admirait le bleu cérulien de son âme. Celui qui lui faisait face, le feu aux joues, n'était pas le pervers qu'encensaient les lettrés, mais un enfant abandonné aux cheveux trempés de pluie. Depuis qu'elle l'avait lu, elle avait conservé comme une relique, roulée en boule au fond de son âme, son petit mouchoir brodé de larmes. L'ancien bon élève du petit village d'Aligny jouait parfois à réciter des vers de la tradition française que Rosalie devait reconnaître très vite. Un jour, tandis qu'il lui lisait un passage du journal de Vitali Rimbaud, ils furent pris d'un fou rire. Pour ne pas laisser voir son visage déformé, Genet éteignit pudiquement la lumière. Ils moururent de rire comme deux fous dans le noir.
Une rose de Maitret était pour toujours tatouée sur l'âme du vieux bagnard. Depuis qu'il avait réussi à échapper au monde, les roses étaient redevenues sa religion. Il raconta à Rosalie les roseraies d'Angleterre. Il narra avec dégoût comment le marquis de Sade, enfermé au fort de Vincennes, se faisait livrer des roses pour la joie infernale de piétiner ces êtres de lumière dans la boue. Il cita, comme autant de titres de poèmes, le nom de certaines roses. Prince noir, ombre parfaite, l'orpheline de juillet, la rose du maître d'école. À travers eux, les anges organisaient des concours de rougissement. Genet dit un jour à Rosalie, « Vous êtes comme une harpe. Vous êtes faite de cordes très sensibles que tout fait vibrer. Quand vous entrez dans une pièce, les autres femmes sont jalouses parce qu'elles ne savent pas chanter. » Rosalie devint rouge de confusion. La gourde mystique lui avoua son rêve d'une rose qui serait baptisée Jean Genet. Elle la voyait déjà, d'une grosseur monstrueuse, d'un rose légèrement flammé de blanc et parfumé à en mourir. À son tour, Genet rougit sous la violence du compliment et s'exclama « Ah, vous savez me flatter !» Parfois, il évoquait devant les jeunes gens les splendeurs perdues des fêtes religieuses de son enfance. Son regard alors s'embuait. L'église était tendue de rubans de soie cerise. On bénissait les blés. C'était beau à pleurer. Un soir, plus doux que tous les autres, d'une voix chevrotante, il chanta aux deux amoureux le temps des cerises que les forçats fredonnaient en partant au bagne.
Il emmena les jeunes gens dans le Morvan à la recherche d'une maison qu'il rêvait de plein pied avec un toit pointu et une coulée de lierre noire. Elle brillait dans sa parole comme la maison d'ardoise de son village. La mort ralentissait le pas tandis que les miracles se multipliaient. Une religieuse ratée méditait sur la Bible d'un truand, un dompteur de lions jouait du luth baroque, un vieux pédéraste qui ne se lavait jamais dégageait un parfum inédit de bain-joint et de tabac d'Arabie. Ne comptant que sur la Providence, le trio filait sur les routes, espérant voir surgir à chaque virage la maison enchantée. Tandis qu'il roulait dans la campagne, il surprit dans l'ombre d'un fossé la lumière de cierge d'une digitale pourpre, pour lui la souveraine des fleurs. Il fit arrêter la voiture, en descendit, courut jusqu'au talus, écarta les ronces à main nue, se pencha et revint en titubant. Comme un tout petit à sa mère, il tendit à Rosalie un spécimen de ce doigt de la Vierge en disant « Tenez, c'est pour vous ». La jeune femme acheva le voyage avec, couché sur ses genoux, le cadavre empourpré de la fleur comme un Christ végétal. C'était le temps béni de la confiance. Celui qu'une femme avait trahi mortellement se fiait à celle qui, rompant avec la servitude de plaire, qui était la loi de son sexe, s'était rasé le crâne pour un deuil, faisant de son corps un monastère.
Au soir du 16 octobre 1983, après avoir marché précipitamment sous la douceur du ciel jauni sur des trottoirs craquants de feuilles mortes, Genet monta chez les Romanès, en proie à une commotion spirituelle. J'ai marché sous les arbres. Je me sentais tellement jeune. Alexandre et Rosalie se turent, impressionnés par l'exaltation juvénile du vieillard. Il réfléchissait à voix haute, relisant sans bienveillance chaque page du livre de sa vie. Quel temps j'ai perdu avec les intellectuels! La nuit tombait, masquant pudiquement leur émoi. C'est la bonté seule qu'il fallait chanter, elle seule est subversive. Leur silhouette noyée par l'obscurité, les jeunes gens écoutaient religieusement la confession miraculeuse.
Je crois que finalement, toute ma vie a été contre les règles blanches.
Jean Genet.
Je veux dire que maintenant, encore maintenant, j'ai 72 ans, hein, et encore maintenant, je ne peux pas être électeur. Je ne fais pas partie des citoyens français. Il y a des délits que j'ai commis qui n'ont jamais été amnistiés, dont un pour vol et une condamnation à 2 ans de prison.
Restons en compagnie de Jean Genet et découvrons un tout autre souvenir que vous gardez de lui, Lydie Dattas, une violente querelle qui vous a inspiré l'un de vos plus beaux textes. Voici un extrait de « La nuit spirituelle » publié l'an dernier. Courte et incisive, cette lettre que vous adressez à Jean Genet s'apparente à un manifeste féministe, brillant comme un diamant noir. Voici pour commencer la préface qui résume les faits. Comment j'ai écrit « La nuit spirituelle » ? Un jour, j'ai trouvé Jean Genet assis dans mon fauteuil. L'ayant reconnu dans la rue et désirant me faire plaisir, Alexandre l'avait, avec sa science gitane, conduit jusqu'à ma porte. Le poète s'installa bientôt dans le studio du dessous. Le soir même, j'entrai dans sa chambre pour discuter avec lui, exprimant joyeusement mes désaccords à celui dont je vénérais l'écriture. Le lendemain, Genet signifia mon bannissement. Je ne veux plus la voir, elle me contredit tout le temps. D'ailleurs, Lydie est une femme et je déteste les femmes. Cette parole qui me rejetait dans la nuit de mon sexe me désespéra. Trouvant mon salut dans l'orgueil, je décidai d'écrire un poème si beau qu'il l'obligerait à revenir vers moi. Pendant des semaines, je cherchais le point d'attaque de mon verbe. Surmontant mon désespoir, j'écrivis « La nuit spirituelle » pour le blesser aussi radicalement qu'il l'avait fait, lui rendant mort pour mort. Quand j'eus mis le point final, face à sa haine des femmes, luisait le bloc de nuit de mon poème, lequel, en lui donnant raison, lui donnait tort. Le jour suivant, on cogna à ma porte. C'était Genet.
Si la nuit est pour vous ce temps de trêve et d'inconscience qui va du crépuscule du soir au crépuscule de l'aube, et si elle cesse pour vous avec le jour, elle est ma conscience même et n'a pour moi pas de fin. Parce que je suis une femme, condamnée à la plus humiliante infirmité, qui n'est pas celle du corps mais celle de l'âme, condamnée à vivre l'envers de toute spiritualité. Il me faut pour subsister glaner dans les ténèbres les déchets que rejette l'esprit, porter éternellement le deuil de la pensée. Si je vous parle, ce n'est pas depuis une conscience lumineuse, mais depuis cette région de l'âme tissée de nuées et d'épouvantes où la pensée n'est plus la marque d'une richesse intérieure ou d'une supériorité morale, mais la trace humiliée d'une misère spirituelle si grande qu'elle fut toujours occultée. Misère d'autant plus grande qu'elle ne sait pas son nom et qu'elle est faite précisément de l'ignorance de sa propre malédiction. Je sais que nul n'essuiera de mon front le rouge de la honte. que la nuit la plus noire ne sera pas assez opaque pour résorber l'humiliation d'être une femme, que rien ne me délivrera de la tristesse humiliée de me savoir n'exister qu'afin de recevoir le sperme, de me savoir faite pour noyer en moi toute spiritualité. Car c'est bien en cela que consiste la malédiction. Que toute spiritualité doive au sein de ma propre chair être résorbée, que toute transcendance y soit destinée à mourir. Je sais que rien ne rachètera le crime d'être une femme, puisque c'est l'appartenance même à ce sexe qui est maudite, puisqu'à chaque instant, ce par quoi j'eusse pu être sauvée expire en moi, et qu'il me faut précisément vivre sa mort éternelle. Destinée à n'éprouver la beauté que comme un manque, à ne me savoir d'âme qu'en la profanant, comme ces prostituées si perdues qu'elles ne peuvent aspirer qu'à se vendre. Il me faut demeurer au seuil de la beauté comme aux marches d'une cathédrale admirable, dont les vitraux éblouissants, pour mes yeux seuls, demeureraient opaques. Car la beauté m'a condamnée sans appel. Chartres, Amiens n'ont pas été bâtis pour moi. L'ange du portail de Reims ne sourit pas pour moi. Je peux les regarder et dire combien je les admire. Mon admiration même est un non-sens et une profanation. Si je chante, c'est d'une voix sombrée. Aucun motif, aucun ornement. Comme la lune passant devant le soleil l'obscurcit, ma pensée en passant devant la vôtre l'éclipsera. Mon âme portera sur la vôtre une ombre dont elle ne guérira pas et que le temps lui-même ne pourra pas effacer. La seule révélation est celle de ma propre nuit. Rien ici ne vous éblouira que cette rose de nuit, cette ténébreuse rosace qui est la face obscure du vitrail et l'envers maudit de la beauté. Tout ce qui faisait la gloire de vos chants les plus magnifiques, en la beauté agonisante de ces pages, expirera, anéanti par ma propre nuit. N'ayant pas droit à la lumière, je me noircirai davantage. Je détournerai sur moi les ténèbres, afin, mon âme ayant bu toute l'ombre, que la beauté en soit lavée et qu'elle resplendisse davantage. Je ne fuirai pas cette malédiction, mais me livrant volontairement à l'obscurité promise comme à l'horreur d'une cécité progressive, me dérobant graduellement tous les trésors du monde, je la vivrai. Ne pouvant vivre qu'en renonçant à la beauté, je ne vivrai donc pas. Mais, de toutes les pensées n'ayant droit qu'à la plus sombre, celle de la négation spirituelle, je la vivrai jusqu'à son terme, pour que ma vie, semblable à ces lignes entre lesquelles aucun rayon ne passe, ne soit que nuit. Ne pouvant être au cœur même de la beauté, je serai la nuit, qui par contraste met en valeur ces roses de lumière et qui fait chanter ces couleurs si pures qu'elles échappent pour toujours à la mort.
Et voici la réponse admirative que vous adresse Jean Genet. À mademoiselle Lydie Dattas, pardonnez-moi de vous dire cela aussi brutalement, mais ce que vous avez fait est très, très beau. C'est à la fois désespéré et au-delà du désespoir. On est giflé par la distance que vous prenez avec le lecteur. Votre parole est comme projetée par un rayon qui viendrait de très loin, et puis la langue est magnifique. Moi aussi, quand j'écrivais, il fallait que chaque phrase transmette sa vibration à la suivante. C'était un problème plus qu'esthétique, un problème métaphysique. Un problème tellement grave, tellement important pour moi. Je ne comprends pas comment vous avez pu faire des phrases si riches. C'est comme ce que j'aime le mieux. Baudelaire, Nerval. J'ai pris une gifle. Jean Genet.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Thank you.
Restons dans le registre du clair-obscur et découvrons le lumineux éloge du noir que vous inspire un grand artiste contemporain. Il est le sujet de votre dernier livre intitulé « La blonde, les icônes barbares » de Pierre Soulages, qui vient de paraître chez Gallimard.
J'ai toujours aimé le noir. D'ailleurs, dans les tableaux que je faisais quand j'étais enfant, il y avait déjà une dominante de noir. Et des couleurs assez comparables aux couleurs que j'emploie maintenant. Finalement, ma palette, mes goûts en matière de couleurs n'ont pas beaucoup changé.
Du fond de votre nuit spirituelle, vous vous passionnez pour celui que vous saluez comme le maître du noir. Voici comment vous apparaît l'inventeur de l'outre noir, un prophète moderne en quête d'une blondeur divine, insaisissable.
Depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, quand les nœuds de la civilisation sont devenus si serrés qu'ils ne laissent plus passer le sang de la vie, un barbare arrive avec une hache et dit « ça suffit ». Soulages est ce barbare éclairé qui fait table rase de tout pour retrouver l'essentiel. Dans cet Occident qui valorise les images au détriment des personnes, comment n'être pas fasciné par les présences anthracites du seul prophète de toute l'histoire de la peinture, hors d'elle.
Pareil au roi barbare préférant au palatial marbre rouge son palais de bois démontable, le maître pense noir, aime noir, rêve noir. Mettant son orgueil à imiter la simplicité de ses ancêtres, il porte partout ce deuil paysan et dort dans les draps noirs des illuminations. Sous le pin parasol où la lune replie ses jambes, au-dessus des plaques tectoniques de l'esprit, se tient la veillée d'armes. Comptant royalement en siècles, le commandeur du noir fait patienter ses troupes. Sentant monter la menace nihiliste, Dieu a envoyé ce janissaire pour nous délivrer du progrès.
Avant que la magie rupestre soit, l'outre noir était. Né d'un ray de lumière enflammant la caverne, depuis des millénaires, il attendait son découvreur. Dieu se réveille artiste dans le salon noir de l'univers, comme si, après avoir écrit ses grands livres, il s'était mis à la peinture. Dans l'antre pariétal, le voyant aveuglé ouvre des yeux d'aiglon. Plus bouleversé par les primitifs que les maîtres vénitiens, il lui faut des ancêtres plus sauvages et plus noirs, comme le peintre des soleils fous voyait la rotation du ciel, fixant leurs tourbillons jaune et bleu, ils voient les lueurs de l'obscur. La nécessité d'être secret dans un siècle athée lui fait inventer l'outre noir pour passer en fraude sa lumière. Déchiffrant les souffles noirs qui échappent au plus puissant télescope, il a la révélation de la blonde. Celle qui somnolait dans les grottes altaïques ressuscite dans le verbe muet de ses soleils tendus. Le peintre tend la main au premier chaman qui arracha un gibier sacré aux plis malarméens d'une caverne pour donner un sens à la vie.
Réduisant la nuit noire au format d'un tableau, le soudeur d'astres racle le firmament d'un outil de fortune pour humaniser le néant. Onglé de nacre sur un lac japonais, une lune siffle entre ses doigts. Ennemi des écrans plats, buveur des âmes faibles, par son seul surgissement, l'outre noir donne à la peinture une dignité prophétique. Déchiffrant le jeu émotif de Dieu sur le spectre du noir, le maître fomente un nouvel enduit pour mieux pénétrer l'intimité de la blonde. Mixé au noir vorace, l'éternel devient émulsion angélique. Ce noir au-delà du noir, appelé aussi déité, est le tremplin séculaire des lumières. Du peintre des cavernes au prophète du noir, la déesse fait courir ses passerelles christiques. Il est maître du noir, puisqu'il est esclave de la blonde.
Le trait noir, et c'était encore une manière de faire vivre, par contraste, le fond sur lequel il est inscrit. Quand vous voyez un arbre sur le ciel, ou quand vous voyez un de mes dessins, une de mes peintures sur papier, ou une de mes peintures à l'huile de 1946 ou 47, ce qui compte, c'est sûrement le trait noir, mais c'est aussi les localités du fond qui s'éclairent et qui changent de valeur par contraste.
Esclave de Dieu ou esclave de l'amour ? L'ensemble de votre œuvre flirte avec la passion, Lydie Dattas, mais une passion païenne qui semble réconcilier l'esprit et le corps. À la fois charnelle et mystique, la passion se révèle sous son double visage dans votre écriture poétique. Écoutons quelques-uns de vos poèmes, extraits du recueil « Le livre des anges » paru en 2003 chez Gallimard. La vie, la mort, la jeunesse, la beauté font cortège autour de vous, Lydie, la foudroyée.
Mon cœur est à celui dont le cœur est à Dieu. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre que Dieu. Mon cœur a chancelé quand j'ai vu ton regard, la terrible douceur qui vient de ton regard. La foudre soulignait ce que disait le ciel. Le Dieu dans le malheur nous parle un peu plus fort. La beauté durcissait le feu de ton regard. La foudre soutenait à peine ton regard. La beauté reculait devant la vérité. La foudre répétait sa menace admirable. Le tonnerre éclatait au centre de mon âme. L'orage me jurait que tu étais vivant. Mon âme a relevé le défi des étoiles. J'ai voulu que mon cœur devienne la beauté. Mon cœur est devenu l'éclair que je voyais.
Ton cœur est aussi droit que la jacinthe bleue. La jacinthe a glissé sa beauté dans ton âme qui jamais n'a copié sur personne, et ton cœur qui jamais n'a douté de l'azur. La beauté se portait garante de ton âme, la beauté qui toujours a pu compter sur toi. Ne détourne jamais ton regard de l'aurore, la beauté n'a que toi pour la défendre encore. Ton regard est si clair qu'il est de la beauté. Ton âme dépouillait les astres de leur feu, ta pensée arrachait sa splendeur au soleil, tu aidais le soleil à éclairer le monde. La mort a essayé de te faire mourir, ton âme a simplement refusé de mourir. Il a suffi simplement de refuser la mort.
Le terrible courage qu'il faut pour être jeune, et la jeunesse est faite pour n'être qu'une fois. La jeunesse respire un air presque trop pur. Si nous savions combien la pureté est pure. La jeunesse semblait pouvoir user le temps, la neige qui tombait sans jamais se blesser, la neige émerveillée de sa propre beauté. Mon cœur a refusé de faire entrer le doute. Le tonnerre s'est épris brusquement de mon âme et mon cœur ne s'est pas écarté de la foudre.
Le deuil est la façon la plus belle de vivre. Les morts sont encore plus présents que les vivants. Tes larmes étaient les seuls joyaux que tu portais. La beauté te suivait partout où tu allais, et la neige était moins élégante que toi. Ta bonté te mettait au-dessus des vivants. Quand les anges taillaient le diamant de tes larmes qui brillaient dans l'écrin de tes yeux, les yeux qui ont pleuré sous les yeux les plus beaux. Te sauver devenait un travail épuisant. J'ai épuisé mon cœur à consoler la nuit. J'étais si fatigué de travailler pour Dieu. Je me suis endormi sur le champ de bataille.
J'appartiens à la race éteinte des étoiles. Ma pensée brillera lorsque je serai morte. Les étoiles mourront avant que je me rende. La vie est un trésor qu'on ne peut pas me prendre. Ma vie sera aussi parfaite que la mort lorsque je connaîtrai la gloire de mourir. La nuit prendra le deuil lorsque je m'éteindrai. Les ronces se rendront ensemble sur ma tombe. La lumière viendra à mon enterrement et la foudre viendra se signer sur ma tombe.
Puisqu'il appartient au poète de triompher du temps, voici Lydie Dattas, deux poèmes de jeunesse dans lesquels déjà vous vous riez de la mort. Ils sont extraits de votre premier recueil, Noon, publié en 1970 au Mercure de France, un ouvrage rare, malheureusement épuisé. Écoutons cette jeune fille de 16 ans se jouer du destin.
Pour le voyou aux yeux cailloux, la mort n'est pas la mer à boire. Le champ de mort est une bouche close. Silence écarlate de ma blessure.
La défunte, la nouvelle défunte, celle qui orne les fleurs de ses yeux liquides, de son œil pensif et moqueur, pierre lourde et molle qui démasque le fracas des tombes, la défunte à la bouche verte emplie d'herbe et de persil, la défunte, la nouvelle défunte qui refuse de chanter sa mort, la défunte qui rougit encore de ses charmes, la défunte qui croit voir son reflet dans le tonnerre des roses rouges, la défunte au visage soleil noir, païenne et chaste, celle dont le torse en canon éclate en rire mi-clos. En conclusion, je vous invite à revenir l'idée d'Attasso au livre par lequel nous ouvrions cette émission, Les Amants Lumineux. Grâce à une longue confession auprès de son ami Gabriel, Raphaël parvient à guérir d'une rupture amoureuse. Voici l'un de leurs derniers échanges. Raphaël semble réconcilié avec elle-même et avec l'amour. Alors, où en es-tu de ta quête, chère convalescente de l'amour ?
Je cherche un homme. C'est-à-dire un homme capable de résister à une femme.
Il n'y a que le ciel qui surpasse les femmes en attrait. Mais il faut venir du ciel pour le savoir.
Je le crois aussi. En tout cas, je rêve d'un amour qui serait lumière sur lumière.
Tu veux parler de ces amants lumineux dont l'amour surnaturel éclaire pour des siècles, comme Héloïse et Abélard, ou comme Saint-François et Sainte-Claire ?
Oui, ou comme Rumi et Shams, ou Majnun et Leïla.
Deux saints ne peuvent pas faire couple, car ils sont transparents l'un à l'autre.
À moins qu'ils ne forment les seuls couples véritablement dignes de ce nom.
Tu as l'air bien sûr de toi ces jours-ci.
C'est parce que je sens que je suis sauvée. Je suis enfin en moi, comme sur la terre ferme.
Il y a un moment où tu t'es relevée triomphante. Il y a maintenant dans ton cœur quelque chose qui est hors d'atteinte.
C'est à toi que je le dois. Mais Mansour m'a amené sans le vouloir à un amour qui n'est presque plus attaché à lui et dont pourtant il est la cause.
Pour toi qu'une seule manière de ne pas mourir, et tu y es parvenu. T'effacer complètement, pour qu'il n'y ait plus personne en toi qui puisse être abandonné.
Oui, me dépouiller de tout pour qu'on ne puisse plus rien me prendre.
Pour que ton amour soit parfait, il te manquait seulement d'être parfaitement détaché de toi-même.
Dis-moi, peut-on aller contre la chute d'une pierre ?
Toi, tu le peux. Tu passes ta vie dans le ciel et tu possèdes la nudité des anges. Si une pierre tombe, tu peux l'attraper au passage.
C'est si extraordinaire ce que j'éprouve. Je me sens prise dans un mouvement ascendant que plus rien ne peut arrêter.
La démence est une souffrance que plus rien ne peut arrêter, mais tu as traversé la tienne. Je me demande même si cette victoire n'est pas ce que tu as vécu de plus beau.
En cherchant l'amour perdu, j'ai trouvé plus que l'amour. Le feu est devenu fraîcheur et paix.
Tu as été jetée au cœur des flammes, mais maintenant tu es au cœur même de l'amour.
Si l'amour existe, il est peut-être ce qui survit au mal.
Merci infiniment, Lydie Latas.
Merci à vous, Guillaume.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Richard Dufour à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irène Menahem. Merci beaucoup, bonne soirée et à la semaine prochaine.